Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Je suis pressé de finir cette semaine, on dirait, au menu Média et Culture au sens large. Aujourd'hui par exemple, on va parler de miel avec l'ami Laurent Mariotte et de Sylvie Vartan, aucun rapport. Bruno Donnet également va se pencher sur la série phénomène de Squid Game, le meilleur démarrage de toute l'histoire de Netflix, 111 millions de vues dans le monde en seulement 17 jours. Il y aura aussi dans l'émission évidemment le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray en fin d'émission et en tout début d'émission, le journal des médias de Louise Bernard. Notre infomédia va dresser le bilan de la rentrée télé. Les fictions de France Télévisions en très grande forme, la guerre des talk-shows et la guerre des chaînes d'infos, le match à 4. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants? Réponse avec deux spécialistes. Et puis nos invités, les journalistes Caroline Roux et Marie Laurent, va parler d'un documentaire édifiant diffusé dimanche soir sur France 5, Poutine, le maître du jeu. C'est dans le cadre d'une soirée spéciale, c'est dans l'air. Enfin, le comédien et désormais présentateur télé Bruno Solo, pour un livre, Les Visiteurs d'Histoire, il a imaginé un dîner avec tous les personnages historiques qui le fascinent et on apprend plein de choses. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le nouveau clip de la chanteuse Adèle qui cartonne déjà, la fin d'une série historique de France 3, la chaîne C8 mise en garde par le CSA, Facebook qui renforce ses règles pour lutter contre le harcèlement, le casting de la nouvelle fiction de TF1 et puis une histoire de cambriolage raté. Quel rapport avec les médias, ouais, vous verrez en fin de journal.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le final de la série Fugueuse avec Michael Youn, Sylvie Testu et Fanny Cottençon. 4 millions de téléspectateurs, 19,6% de part d'audience, un final en hausse. Ça fait même mieux que le premier épisode diffusé il y a un mois pratiquement. Deuxième, M6 avec Le Meilleur Pâtissier en hausse également. Le Meilleur Pâtissier dont le lancement avait souffert la semaine dernière du foot qui était sur TF1 en face. Cette semaine, 2 400 000 téléspectateurs ont regardé cette saison 10, 14,2% de part d'audience. Et puis troisième, le documentaire sur France 3, Mon temps est à nous. Bon score pour ce documentaire, 1 740 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. Documentaire qui passe donc devant Envoyé spécial, quatrième, 1 600 000 téléspectateurs, 8,3% de part d'audience.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec cette info. Le nouveau clip de la chanteuse Adèle cartonne déjà.
Vous l'avez entendu dans le journal de 9h, la chanteuse Adèle sort ce nouveau titre « Easy on me ». Le clip a été mis en ligne cette nuit, minuit, heure de Londres, et cumule ce matin déjà plus de 13 millions de vues sur YouTube. Je viens de vérifier, ça continue. Ouais. Peut-être qu'à la fin du journal, il y en aura 14 millions.
Je précise, sur le texte de Louise, il y avait écrit 12 millions.
Mais oui, mais ça continue.
La mise à jour, c'est 13.
Ça ne s'arrête pas. Il s'agit donc du clip de ce nouveau titre « Easy on me », son premier single après 6 ans d'absence. Clip en noir et blanc pendant près de 4 minutes avant de passer en couleur, réalisation de Xavier Dolan. Excusez du peu.
Et on vous fera écouter ce titre d'Adèle en intégralité dans une heure dans Culture Média. En attendant, on continue ce journal des médias avec une série historique de France 3 qui tire sa révérence ce week-end.
Le dernier épisode, c'est autre chose qu'Adèle. Hein. Le dernier épisode de Commissaire Magellan qui sera diffusé demain soir après 12 ans et 10 saisons. France Télé a décidé d'arrêter la série, non pas à cause des audiences hein, qui étaient plutôt bonnes, mais pour renouveler ses fictions. La série Mongeville a d'ailleurs subi le même sort. Lors de l'annonce de ses décisions, la directrice des fictions de France Télé, Anne Holmes, avait d'ailleurs justifié ce choix auprès de Télé Loisirs en parlant d'un problème de riche, car toutes les séries du samedi soir, elles marchent très bien sur France 3, donc il faut bien en arrêter quelques-unes pour en lancer d'autres. Et ne pas ronronner.
Alors, à quoi va ressembler ce dernier épisode de Commissaire Magellan ?
En fait, il n'a pas du tout été construit comme un dernier épisode de série. Au moment du tournage, l'arrêt de cette série n'avait pas encore été officiellement annoncé. Il y avait seulement quelques rumeurs. On a contacté Jacques Spiesser, qui incarne le commissaire Magellan depuis toutes ces années. Et lui, il a su comprendre la décision de France Télévisions.
Ça me paraît un peu logique. L'embêtant, c'est que ça marche très bien. Et oui, les gens ne sont pas contents que ça s'arrête, ils me le disent. Je crois que c'était une série très, très affective pour les gens. Ils aimaient beaucoup le personnage. Il y avait une empathie, il y avait une affection pour ce commissaire. J'ai bien senti ça dans la réaction des gens. Moi, je suis pas propriétaire de la série. Hein. Bon, je comprends qu'ils veuillent renouveler aussi un petit peu. Quoi. J'avais pas envie non plus de devenir une sorte de Derrick, quoi. Vous voyez.
Derrick qui a duré près d'un quart de siècle, hein, 24 ans de série, deux fois plus que Magellan, donc qui s'arrête demain soir avec un dernier épisode, Mortel Refrain, une enquête sur le meurtre d'un chanteur un peu oublié qui préparait son grand retour. Ce sera à 21h05 sur France 3 demain soir.
La chaîne C8 mise en garde par le CSA.
Pour avoir diffusé en prime time un film de propagande anti-IVG, Unplanned, en août dernier, une fiction américaine qui contenait notamment des contre-vérités scientifiques. Le CSA estime que ce programme n'aurait pas dû être diffusé avant 22h en raison de son climat anxiogène. Information du site Les Jours. C8 avait déconseillé le film au moins de 10 ans, non pas 16 comme recommandait le distributeur français. La chaîne avait quand même diffusé un message avant le début du film, un rappel à la loi tout simplement. Toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend.
Télévision toujours, TF1 vient de dévoiler le casting du téléfilm Ils s'aiment.
L'adaptation en fiction de la pièce de théâtre de Muriel Robin et Pierre Palmade, pièce qui fête ses 25 ans. Le tournage de la fiction vient de commencer avec 5 couples au casting. Muriel Robin et Pierre Arditi, Carole Bouquet et Pierre Palmade, Michel Larocque et Arnaud Ducré, Audrey Fleurot et Michael Youn et enfin Claudia Tagbo et Florent Père. Ça fait du monde. Ouais. Sans compter les très nombreux invités prestigieux, Elise Moon, Lynn Renaud, Jean-Pierre Pernaud, j'en passe. Le téléfilm suivra les histoires donc de ces 5 couples et de leur entourage, couples séparés, ensemble ou divorcés, avec toutes les situations du quotidien qui peuvent en découler. Et TF1 avait déjà adapté, souvenez-vous, des sketchs de Muriel Robin l'an dernier dans la fiction I Love You Coiffure, véritable succès avec plus de 6 millions de téléspectateurs.
Et Muriel Robin était venu en parler ici à Culture Média. On passe du côté des réseaux sociaux avec Facebook qui annonce renforcer ses règles contre le harcèlement en ligne.
Le réseau social veut mieux protéger les personnalités publiques comme les politiques ou les célébrités avec une nouvelle catégorie d'interdiction. Les commentaires autour de la sexualisation des individus seront désormais supprimés s'ils relèvent du harcèlement. Ce sera à la victime de fournir des éléments de contexte. Et puis autre annonce, les journalistes et défenseurs des droits humains, célèbres par leur travail, seront désormais protégés de contenus blessants, indique Facebook, comme des commentaires sur leur physique, par exemple.
Et puis on termine ce journal avec un cambriolage inspiré de la série Lupin de Netflix.
Ouais, cambriolage totalement raté, vous allez le voir. C'est un Italien de 21 ans qui a tenté de braquer le bar d'un oratoire d'église samedi dernier en s'inspirant du personnage d'Omar Sy, c'est ce qu'il a dit en tout cas à la police. Ce soir-là, il porte une veste en cuir similaire à celle de Lupin. Puis il ruse en attendant que les cloches de l'église sonnent pour casser une vitre. Mais il se blesse au bras et donc préfère s'enfuir pour se soigner. Maigre butin, une bouteille de jus d'orange pétillant et 21 euros, c'est précis. On est quand même loin du collier en diamant de Marie-Antoinette dans Lupin.
J'adore cette news. Merci beaucoup, Louise Bernard. Cette news et toutes les autres à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi, Louise.
À lundi.
Pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
Dans un instant, notre info média du jour, chaîne d'info, talk show, fiction, télécrochet. Quels ont été les gagnants et les perdants de cette rentrée télé? On en parle avec les journalistes médias Benjamin Rabier de Télé Loisirs et François Rousseau de Télérama. Ils vont faire les comptes pour nous.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce vendredi soir, sur France 2, sera diffusée en deuxième partie de soirée la finale de The Artist, le télécrochet de service public qui devait être l'un des événements de la rentrée pour la deuxième chaîne. Résultat, mauvais départ, érosion des audiences et puis déprogrammation, mais une prise de risque à saluer dans une rentrée télé peu innovante reposant sur des marques connues du grand public avec en ligne de mire l'élection présidentielle. Y aura-t-il d'autres prises de risque et pour quel résultat? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? C'est l'heure du premier bilan. On va le dresser avec deux spécialistes ou deux journalistes médias dans la presse écrite. Bonjour Benjamin Rabier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Avec vous et avec nous, François Rousseau. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste pour le magazine Télérama. Désormais, une question très ouverte pour commencer, cette rentrée télé, vous l'avez trouvée comment?
Bah moi je l'ai trouvée assez plan-plan, on n'est pas vraiment bousculé. D'abord c'est la première rentrée après un an et demi de confinement à répétition, où quand même la télé à la fois a explosé mais a aussi été chamboulée. Et puis c'est une rentrée où il y a eu davantage de nouvelles formules que de créations. Donc il y a assez peu d'originalité. Et puis enfin, c'est une rentrée un peu délicate pour le média télé en lui-même, puisque la durée d'écoute, après les explosions du confinement, elle baisse. Et donc, depuis septembre 2019, la durée d'écoute, elle est tombée à 3h27, à 3h23 là, en septembre dernier.
C'est le niveau d'avant confinement ou ça a encore baissé par rapport à 2018, par exemple ?
Ça a encore baissé par rapport à 2018, mais en 2019, c'était 3h27.
Benjamin Rabier.
Pour moi, elle était prometteuse sur le papier avec des gros lancements, surtout sur TF1 avec le divertissement, Danse avec les stars qui revenait après 2 ans d'absence. Une saison All-Star de The Voice et aussi une saison All-Star de Koh-Lanta qui était très attendue parce que Koh-Lanta a vraiment été le carton du confinement. Et finalement, à l'arrivée, c'est un peu décevant. On voit que les gens désertent un peu le petit écran. En fait, c'est ça. On en a mangé pendant 1 an et demi parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de regarder la télé chez soi. Là, on voit que les Français éteignent un petit peu plus leur télé, quoi.
Et aussi, il a fait beau. Alors, vous parliez de Koh-Lanta, c'était mardi soir sur TF1, Denis Brognard face à un flambeau.
Et leur sentence est irrévocable.
Bim. La sentence, cette fois-ci, n'est peut-être pas irrévocable parce que tout change en télévision, mais elle est tombée. Une rediffusion d'Alex Hugo sur France 3 a battu un épisode inédit de Koh-Lanta. C'est une tendance, et même plus qu'une tendance, que la plupart des grosses marques de TF1 sont systématiquement battues par les fictions de France Télévisions. Samedi dernier, The Voice battu par Meurtre à Lille, et vendredi, César Wagner d'une courte tête devant Danse avec les stars. François Rousseau, la fiction de France Télé écrase tout.
Bah, c'est des marques fortes, hein. C'est presque des programmes un peu refuge des fictions comme Alex Hugo ou comme Candice Renoir, elles sont là depuis 2013-2014.
Mais on ne disait pas ça en 2013, ni en 2014, ni en 2018. C'est dingue ce qui est en train de se passer.
Oui,
là,
je pense que le public s'est attaché à ces personnages-là. Et puis, c'est des offres très différentes, des grands divertissements et des grands Barnum de TF1. Mais juste pour... vous avez raison, mais pour nuancer un peu, les grandes marques de TF1, en replay, elles cartonnent. Donc, il y a beaucoup de gens qui les consomment en rattrapage. Et puis, sur les cibles commerciales, surtout, elles continuent d'être très forte.
Benjamin Rabier, donc les grandes marques de TF1, c'est pas fini pour elles.
Non, c'est pas fini parce que TF1 se positionne clairement sur les jeunes et la cible tant convoitée de la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et sur cette cible, ils sont imbattables. J'ai pris les chiffres pour vous. Danse avec les stars cette saison, c'est 36% sur les ménagères. Koh-Lanta, 38%. The Voice, 33%. Alex Hugo, 7%. Vous voyez, il y a vraiment une différence de public. En fait, le problème de TF1 aujourd'hui, c'est le vieillissement de la télévision, du public de la télévision. Donc forcément, ils vont sur ces marques, Alex Hugo, Candice Renoir, qui sont très identifiées, parce que je crois que c'est la saison 7 d'Alex Hugo, la saison 9 de Candice Renoir. Donc ils ont réussi à installer les marques. Et les jeunes, ils regardent beaucoup moins la télé en linéaire. Donc c'est pour ça que Koh-Lanta aujourd'hui, même si c'est en baisse sur un an, en replay, ça cartonne. Il faut à peu près 1 million de téléspectateurs en replay. Mais sur les cibles commerciales, c'est un carton de la rentrée, quoi.
Et l'explication est peut-être toute trouvée. J'allais vous demander votre avis, savoir pourquoi l'affaire Grégory. Plutôt, la fiction événement Une affaire française de TF1 consacrée à l'affaire Grégory a eu un résultat en demi-teinte.
Déception, c'est une vraie déception, parce que TF1 visait 6 millions de téléspectateurs. Résultat, sur la moyenne des 6 épisodes, ils ont fait quasiment moitié moins, avec un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc, ils se sont interrogés, se sont demandé si ce n'était pas la météo favorable aux terrasses qui avait fait que les gens avaient déserté le petit écran. Peut-être que sur Grégory, il y avait une lassitude. C'est une affaire qui n'est pas résolue, finalement.
Et puis, il y a eu beaucoup. Il y a eu une série Netflix, il y a eu d'autres épisodes.
Exactement.
D'autres projets.
Voilà, c'est une histoire à répétition. Et c'est clairement une déception pour TF1 parce qu'ils avaient misé très gros sur cette rentrée avec cette affiche, ce qui n'enlève rien à certaines qualités de la série, même si elle a aussi déçu pas mal de spécialistes.
Alors, je l'ai dit, The Voice a été battu par Meurtre A sur France Télévisions. Mais avant cela, The Voice a fait une victime sur le service public. C'est la nouvelle émission produite et présentée par Nagui, The Artist. Le concept du télécrochet de la 2, c'était faire concourir des auteurs et des compositeurs, plutôt des auteurs-compositeurs, déjà c'était nouveau, avec un vote du public gratuit. Ça aussi, c'était nouveau. Mais pourtant, dès le premier soir, Benjamin Rabier, faible audience, le mot est faible.
Ah bah c'est l'accident industriel de la rentrée télé, c'est-à-dire que c'était l'événement divertissement de France 2 et ça a fait flop dès la première. On était avec François à la conférence de rentrée de France 2 pour parler des divertissements. Ils n'ont parlé que de ce programme. C'était vraiment leur grosse cartouche de la rentrée. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet échec. Déjà, la communication de Nagui, désastreuse avant le programme. Il a parlé que de sa concurrence, que de la concurrence de The Voice. On ne savait même pas quel était le concept du programme avant la première.
Oui, je rappelle, il s'était attaqué, peut-être chez Anne-Elisabeth Lemoine,
à
The Voice, en disant que TF1 avait programmé le même jour que son émission The Voice, en sous-entendant que TF1 avait peur de France 2.
Oui, c'était une erreur stratégique de dire ça. Néanmoins, ce qu'il faut regarder, c'est le programme en lui-même qui a un peu bousculé, parce que finalement, on a regardé ça sans aucun repère. Des artistes, auteurs, compositeurs, inconnus, face à un jury d'experts, mais dans ce jury, aucune personnalité. Le téléspectateur a regardé ça de façon un peu surprenante, mais la promesse était très belle. Je trouve que ça, c'était bien de vouloir mettre en lumière des talents. Mais le public a boudé dès le départ, et finalement, la promesse que le service public ait enfin son télécrochet a échoué. Résultat, l'émission a été rétrogradée le vendredi en deuxième partie de soirée. D'ailleurs, c'est la finale ce soir.
Ouais. Je l'ai dit. Avant cela, fait très rare, après la deuxième émission, donc le producteur-animateur de l'émission, Nagui, est revenu sur l'échec, sur son échec, dans une vidéo publiée sur Internet.
Mais j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vue, cette deuxième émission. Alors, elle est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Benabar, tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l'originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas. Mais la nouveauté peut avoir du bon. Je compte sur vous. On a besoin de vous et je vous assure qu'on s'est amélioré.
Il a la voix bien triste.
Bah, c'est un échec pour lui. Hein. Nagui, c'est quand même une énorme tête d'affiche. C'est l'homme de Taratata. Enfin, c'était un très gros pari.
Puis ce que je veux dire par là, c'est que personne ne l'obligeait à faire cette vidéo. Il aurait pu ne rien faire. C'était très étrange de l'entendre avec ce ton-là dire « venez nous voir ».
Après, c'était très bizarre parce que c'était vraiment l'événement de sa rentrée télé à lui. Et pendant les deux premières semaines, il réagissait pas aux audiences et tout. À un moment, il a été obligé de communiquer sur son programme. Lui, il l'attendait. Il pensait qu'il allait révolutionner le genre du télécrochet. Ça n'a pas marché. Et pour moi, une des erreurs de Nagui, c'est d'avoir voulu créer un télécrochet d'auteurs, compositeurs, interprètes, et sur le premier prime, que des reprises. Clairement, la promesse, elle n'était pas claire aux yeux des gens, c'était flou. Et d'ailleurs, c'est le problème de The Artist, c'est que le format a changé tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs, il y avait une nouvelle mécanique. Et les gens, en fait, ceux qui étaient là au début, ils sont partis parce qu'ils n'y comprenaient plus rien.
Ce qui n'a pas changé et qui est une mécanique très rodée dans les émissions de Nagui, c'est l'Access. Ça cartonne. On parle de la guerre de l'Access et de la guerre des chaînes d'infos. On marque une pause. On est avec Benjamin Rabier, Télé Loisirs, François Rousseau, Télérama, les tops et les flops de la rentrée. C'est dans quelques instants.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le premier bilan de cette rentrée télévision, les tops et les flops, pour dire les choses trivialement, avec Benjamin Rabier de Télé Loisirs, François Rousseau de Télérama. Benjamin Rabier, on parlait de l'émission de Nagui en prime time, The Artist, qui fut une déception, mais en dépit de cette rentrée mouvementée, Nagui reste une valeur sûre, même très sûre, de France 2.
Bien sûr, honnêtement, Nagui, c'est la vache à lait France 2 avec N'oubliez pas les paroles à 19h. Il permet à la chaîne d'engranger un max de rentrées publicitaires. C'est vraiment le créneau le plus rentable de la chaîne. N'oubliez pas les paroles depuis la rentrée bac régulièrement Demain nous appartient sur TF1. Donc non, pour le coup, il n'y a aucune inquiétude sur Nagui à France 2.
Et il ramène du monde devant le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Alors, on est dans aux alentours de l'Access, on va parler des soirées, on va parler de la case stratégique de ce 19h, la guerre des talk shows, c'était la rentrée également pour Quotidien, c'est à vous et touche pas à mon poste.
Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50.
Bonsoir et bienvenue dans Quotidien, nous sommes le jeudi 14 octobre.
Merci d'être avec nous les chéris, 18h40, file.
Benjamin Rabier, le véritable changement, il est du côté de C'est à vous sur France 5 qui est prolongé désormais jusqu'à 21h. Côté chroniqueur, on note les recrutements de Mathieu Béliard et de Mohamed Bouafsi. Changement payant.
Ouais, pari réussi, je trouve que c'est vraiment le beau succès de ce début de saison. C'était un pari vraiment de prolonger jusqu'à 20h50 parce que, évidemment, en plus avec la concurrence, vraiment, c'est à 20h qu'arrive la concurrence de Quotidien et de Touche pas à mon poste. Et vraiment, là, ils ont dynamisé la case du 20h, c'est-à-dire que Claire Chazal avec Passage des Arts, elle était à peu près à 400 000. Là, ils arrivent à faire des pointes à 800 000. C'est quand même en un mois, c'est quand même assez incroyable.
Ah oui, doubler la case en un mois, bravo.
Et surtout, je trouve que les nouveaux arrivants, Mohamed Bouafsi et Mathieu Béliard, ça donne un peu de jeunesse à cette bande et un nouveau dynamisme. Vraiment, je trouve que c'est une réussite.
Je souris parce que je pense à mon ancien patron Pierre Lescure.
qui reste un pilier de l'émission.
Qui reste un pilier, mais je trouve que ça, c'est une nouvelle énergie, je trouve, et ça prend en fait.
Je suis d'accord, la mayonnaise prend.
Qui est le premier en moyenne sur les deux tranches horaires à 19h et à 20h, François Rousseau?
À 19h, c'est à vous, avec ouais. Elisabeth Lemoine. Et puis à partir de 20h, c'est Yann Barthès avec Quotidien, qui a fait d'ailleurs sa meilleure semaine la semaine dernière. Il était à 1,6 million de téléspectateurs en moyenne. Voilà, après pour tout ce petit monde, si je puis dire, il faut, je pense, attendre l'heure d'hiver parce que c'est là que le public Évidemment. Va arriver en masse. Ils vont gagner quelques centaines de milliers de téléspectateurs parce que Quotidien, ils étaient pas loin des 2 millions en fin de saison l'année dernière. Mais voilà, ils font tous des rentrées plutôt calmes, sans bad buzz, sauf peut-être du côté de C8 chez Cyril Hanouna où il se passe plus de choses et où il y a des débats.
Il se passe des choses aussi volontairement parce que Touche pas à mon poste, qui était une émission d'observation de la télévision, devient de plus en plus, s'empare de plus en plus de sujets sociétaux.
Il a rebattu les cartes de son émission, il s'empare de thèmes politiques puisqu'il dit lui-même qu'il voudrait être un médiateur pendant la campagne présidentielle avec le public. Et c'est vrai qu'on parle quasiment plus médias dans cette émission qui au départ était axée sur les médias, et il s'empare de sujets d'actualité, de débats de société sur la laïcité, sur des faits divers, sur toute l'actualité du quotidien qu'il revisite le soir en débattant, en essayant d'avoir les acteurs. Donc c'est un changement d'ADN de l'émission.
Et est-ce que ça marche? Est-ce que le public suit? On a vu il y a deux jours, il y avait ce jeune homosexuel qui a manqué se faire lyncher par 10 personnes et qui était sur le plateau de manière anonyme.
Oui, c'est en ça qu'il essaye d'être au plus près du show de l'actualité. Show, c'est H-A-U-D, mais aussi show S-H-O-W, parce que avec la bande de chroniqueurs, avec les invités, parfois ça déborde un peu. Il y a une promesse de direct.
Ça déborde. C'est aussi votre jugement?
Ouais, ça, après c'est du Cyril Hanouna, et pour moi sa plus grande réussite, c'est d'avoir fait d'un talk show média, un talk show de société. C'est quand même incroyable que le public de TPMP qui regardait l'émission pour de la télé soit resté pour parler de laïcité, d'homophobie.
C'était ma question.
C'est quand même incroyable que les audiences n'aient pas bougé. Parce qu'avant, on parlait des fanzous qui étaient fans d'Hanouna, de télé. Et maintenant, il arrive à faire des débats de société. Le public ne bouge pas. Les audiences de ce début de saison sont vraiment bonnes. L'année dernière, c'était un peu en dessous. Là, il a réussi à rebooster son émission. Vraiment, c'est surprenant, je crois.
Et peut-être qu'il va piquer du monde aux chaînes de télé, ce qui nous amène à la guerre des chaînes d'info, le match à 4 que se livrent BFM, CNews, LCI, France Info. Et l'événement médiatique de cette rentrée, ça se passait là-bas. C'était un débat politique marqué par la radicalité.
Vous êtes en danger, à mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes.
Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine.
On a reconnu le débat Mélenchon-Zemmour sur BFM TV. François Rousseau, BFM a su créer l'événement. C'est amené à se reproduire ou c'est un one-shot?
À mon avis, ça se reproduira parce que BFM a besoin de faire des coups. Le paysage des chaînes info a été dynamité depuis 6 mois, depuis le printemps, par la percée de CNews, qui depuis une douzaine de fois au moins s'est hissée devant BFM TV, qui est toujours leader, mais qui était surtout depuis 10 ans la leader incontestée. La dernière fois que CNews, en réalité l'ex-télé, avait battu BFM Télé, c'était en 2011. Donc ils ont toujours été dans un confort d'audience absolu. Et là, BFM veut à la fois évidemment marquer la présidentielle, comme toutes les chaînes d'infos veulent marquer leur empreinte la présidentielle, mais surtout ils ont besoin de faire des coups. Et donc il y aura sans doute d'autres affiches comme celle-là.
Et on note que le prochain invité d'Élysée 2022 sur France 2, présenté par Thomas Soto et Léa Salamé, sera Éric Zemmour. La chaîne d'info qui a fait le plus de modifications cette rentrée, c'est LCI, avec un nouveau plateau, le recrutement de Ruth Elkrief venu de BFM TV, le recrutement de Paul Larotourou venu de l'émission Quotidien, une nouvelle matinale, beaucoup d'investissements. Est-ce qu'ils ont bien été payés en retour, François Rousseau?
Il y a une dynamique du côté de LCI. Néanmoins, la chaîne reste loin derrière les autres, loin derrière BFM, derrière CNews. Il y a une petite dynamique, notamment le soir avec Éric Brunet, ce qui a amené CNews cette semaine à revoir ses soirées et à mettre en face d'Éric Brunet sur LCI une nouvelle émission sur CNews avec Thomas Lecartier. Donc ça vous montre bien la guerre des chaînes info, qui est un sujet qu'on traite dans Télérama la semaine prochaine, puisqu'on consacre un dossier à l'influence des chaînes d'information dans le paysage audiovisuel pour les 6 mois à venir et pour les 6 mois de campagne. Voilà. voilà, LCI, vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué à la conférence de presse de rentrée toutes les chaînes info, c'est que chaque patron a dit ah, attention, on veut plus de polémique sur nos antennes, on va se recentrer, plus d'images, plus d'infos, etc. Il y a un positionnement très noble comme ça, très sage, pour dire que la campagne doit être un moment de rassemblement. En réalité, quand vous regardez les chaînes d'info depuis un mois, au-delà de la Zemmour mania qui donne un peu le tournis, vous constatez surtout qu'il y a peu de reportages et de valeurs ajoutées sur le reportage, mais il y a beaucoup de plateaux de débat et aussi beaucoup de bavardage.
Benjamin Rabier, vous êtes d'accord avec ça? Ce sera le mot de la fin.
Totalement, ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je dirais juste que le match à 4 se joue vraiment à 2 entre CNews et BFM et que LCI et France Info sont largués. LCI fait quand même 2 fois moins d'audience que CNews et presque 3 fois moins que BFM au mois de septembre. Donc même si
CNews... On disait ça de CNews il y a 2 ans. Hein.
Bien sûr, mais là...
Vous pensez que c'est figé pour la saison?
C'est irrattrapable en 6 mois pour moi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Rousseau. On peut vous lire dans Télérama, Benjamin Rabier, on vous lit dans Télé Loisirs. Et dans le prochain numéro, vous reviendrez justement sur les tops et les flops de la rentrée. François Rousseau, vous l'avez dit, prochaine enquête consacrée aux chaînes d'info. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va parler du documentaire Poutine, le maître du jeu. Ça sera dimanche soir sur France 5. C'est un C'est dans l'air spécial. Nous serons avec la présentatrice de C'est dans l'air, Caroline Roux, et la réalisatrice du doc, c'est Marie Laurent. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Caroline Roux.
Bonjour Philippe Vandel.
Journaliste, présentatrice de C'est dans l'air sur France 5. C'est du lundi au jeudi à 17h45. Mais dimanche soir, ce sera à 21h. Car vous proposez une soirée spéciale C'est dans l'air avec la diffusion d'un documentaire inédit de 90 minutes, Poutine, le maître du jeu. Marie Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, c'est vous qui avez réalisé ce doc co-écrit avec Barbara Steck, documentaire avec des morceaux de Caroline Roux dedans, si j'ose dire.
Des morceaux de Caroline Roux.
Oui, on disait ça pour les publicités, vous vous souvenez de ça? Avec des interviews exclusives. D'abord Caroline Roux, puisque vous êtes la maître d'œuvre de l'émission. Pourquoi un doc sur Poutine aujourd'hui? Quelle était votre envie, votre ambition?
Mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait des C'est dans l'air sur la diplomatie et sur les relations internationales, quels que soient les sujets, on finissait toujours par dire eh ben, au final, c'est Poutine qui a une partie de la solution du problème. Et en matière diplomatique, il est souvent maître du jeu, puisque c'est le titre du film. Et on a voulu se pencher sur sa stratégie, sur la façon dont il garde la main au sein même de son pays et la façon dont il arrive toujours à se positionner vis-à-vis des autres puissances.
Marie-Laurent, il faut raconter le dispositif, j'ironisais, mais c'est un documentaire, je dirais classique, avec du reportage sur place réalisé par vous, plus des interviews d'invités exceptionnels réalisées par Caroline Roux, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est un travail qu'on fait de concert avec cette partie entretien qui nous permet d'approfondir avec des interlocuteurs de premier plan. Là, on a Dimitri Peskov, par exemple, qui est le porte-parole de Vladimir Poutine depuis 20 ans. Donc, c'est l'occasion de l'interroger, de confronter aussi notre vision des choses, en fait, à la leur. Et là, par exemple, notre modèle démocratique, celui qu'on connaît en France, à celui que proposent les Russes.
Et puis, il y a aussi les experts habituels qu'on entend, qu'on voit danser dans l'air.
Oui, et ils nous servent donc de fil rouge pour décrypter un petit peu tout ça, parce que vraiment, l'idée de ce grand format 90 minutes, c'est de mettre en perspective, d'essayer de comprendre en fait le projet de Vladimir Poutine, sa vision de son rapport à l'Occident, parce que c'est vraiment quelque chose qui est structurant en fait dans sa pensée. Et donc nos experts sont très précieux pour décrypter tout ça sur la longueur.
Alors la vision de Poutine, on la comprend dès le début, puisque votre doc débute par un exposé sur la puissance des services secrets russes, qui s'explique notamment par la trajectoire personnelle de Poutine.
C'est un ancien du KGB.
Voilà.
C'est comme ça qu'il a été formé. Et au fond, dans toute la façon qu'il a d'exercer les responsabilités, y compris dans son pays, il garde ces réflexes-là. Et on a interrogé Bernard Bajolet, qui est l'ancien patron du renseignement de la DGSE, qui connaît évidemment très bien les services russes. Et il nous raconte qu'il y a une tradition de l'espionnage, il y a une tradition russe.
Oui, on pensait que ça allait s'arrêter avec la fin de la
pas
guerre froide et la chute du mur de Berlin. Pas du tout, même ça reprend de plus belle, si j'ose dire.
Pas du tout, ça reprend de plus belle, avec de nombreux effectifs. Et il y a effectivement, c'est ce que nous dit Bernard Bajolet, ouais. Ils ont vraiment énormément d'hommes sur le terrain, d'hommes et de femmes sur le terrain, et par ailleurs, ils vont jusqu'à intervenir sur le sol européen. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'à chaque fois, évidemment, on montre que la stratégie de Poutine, sa manière de procéder, son goût du rapport de force, est aussi une façon d'interroger l'Europe sur la façon dont elle pose ses lignes rouges.
Et justement, Bernard Bajolet, directeur général de la sécurité extérieure en française de 2013 à 2017, vous l'avez interviewé, Caroline Roux, il connaît bien les services secrets russes, oui. Il a eu affaire à eux.
Est-ce qu'il y a une spécificité dans la manière dont les espions russes travaillent sur le territoire français?
Je ne vais pas très, très, très spécifique parce que je ne veux pas que nos auditeurs russes, notamment, sache ce que nous savons.
Alors Caroline Roux, vous le relancez, on comprend sa prudence. Vous lui rappelez quand il était aux responsabilités en 2017, il a dû traiter une affaire, une taupe s'était infiltrée au cabinet du ministre Jean-Yves Le Drian, une taupe russe. Bajolet ne relève pas, et même dans un sens qui m'a surpris, il défend les Russes.
Il y a certaines actions des agents russes qui sont signées. Je veux dire par là, quand on entend parler du Novichok ou de l'empoisonnement...
En l'occurrence, pour moi, il ne fait aucun doute que les services russes sont à l'origine de la tentative d'empoisonnement de Skripal ou celle de Navalny. C'est des niveaux complètement différents. Mais il faut quand même être un tout petit peu prudent en sachant que certains services peuvent emprunter à d'autres leurs méthodes pour masquer leur action.
C'est encore plus compliqué que tout. Il y a du secret dans les services secrets. Le Novichok, pardon, d'un mot, qu'est-ce que c'est, Marie-Laurent ?
Alors, c'est un des derniers nés des poisons. C'est une arme chimique qui a été élaborée dans les laboratoires secrets à la fin dans les années 90 par les Russes et qui n'a pas été déclarée dans un premier temps à la Convention internationale d'interdiction des armes chimiques. Il a fallu attendre l'empoisonnement de Skripal pour que ce poison-là soit ajouté, et c'est un poison innervant extrêmement fort qui a été utilisé donc pour aussi empoisonner Navalny l'année dernière.
Exactement, et alors j'ai vu juste la quantité, les chiffres que vous donnez, il suffit d'un gramme pour empoisonner 1000 personnes.
Oui, c'est un poison extrêmement puissant qui est la détention des Russes. Seuls les Russes en fait peuvent le fabriquer aujourd'hui.
Voilà, quelque chose aussi qui est très frappant au sujet des services secrets et dans votre doc, vous avez retrouvé une femme qui a travaillé pendant 25 ans comme agent secret d'abord au Canada et puis aux États-Unis. Elle vous parle librement, c'est presque une héroïne. Elle a été accueillie et fêtée par Poutine à sa sortie de prison puisqu'elle a été chassée des États-Unis.
C'est ça, en fait, il y a limite un culte de l'espionnage en fait en Russie. Il y a une journée du cosmonaute, il y a une journée du médecin, il y a une journée de l'espion. Donc ils sont vraiment glorifiés et Poutine, au premier chef, y participe beaucoup. Et donc elle était tout à fait fière de nous dire d'ailleurs qu'elle considérait que c'était une approche défensive en fait de l'espionnage, contrairement, ajoute-t-elle, aux Américains.
Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle parlait de sa légende comme dans le bureau des légendes et la réalité rejoignait la fiction, à moins que ce soit l'inverse. On n'a pas encore tout raconté, tout ce qu'il y a dans ce doc. Le meilleur est à venir. Vous restez avec nous, Marie-Laurent, Caroline Roux. On va parler du porte-parole de Vladimir Poutine. L'interview m'a laissé sans voix. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dimanche soir à 21h sur France 5, une spéciale C'est dans l'air, documentaire Poutine, le maître du jeu, réalisé par Marie-Laurent, avec à l'intérieur des entretiens réalisés par vous, Caroline Roux, qui présentait habituellement l'émission. Vous êtes allé à Moscou interroger le porte-parole de Vladimir Poutine. Il s'appelle Dimitri Peskov, c'est l'un de ses plus proches collaborateurs depuis 22 ans. Est-ce que ça a été facile de le rencontrer ? Est-ce qu'il a mis des conditions ? Est-ce qu'il a posé des questions interdites ou pas du tout ?
Ça n'a pas été facile de le rencontrer parce qu'il parle très peu aux médias occidentaux. On a bataillé pour qu'ils acceptent de nous ouvrir les portes du Kremlin. On a bataillé pour, à un moment donné, défendre ce qu'on voulait poser comme question. Sincèrement, moi, je n'ai pas eu de conditions qui ont été posées. On a, par le passé, fait d'autres documentaires, notamment avec les Chinois. Je vous assure que c'était beaucoup plus strict. Il savait exactement pourquoi on voulait le voir et on lui a expliqué qu'on voulait, ce qu'on fait dans C'est dans l'air et dans ces formats-là, c'est comprendre leur position, comprendre leur stratégie, comprendre leur lecture de l'histoire. Et il a ouvert les portes. Je vous avoue qu'on n'a pas été déçus.
Moi non plus. J'ai vu l'émission, vous lui posez une question sur la régularité des élections en Russie. Et alors, ce qui m'a vraiment étonné, il vous répond franchement et il vous dit non. C'est pas du tout régulier au sens où vous l'entendez en Occident. On écoute Caroline Roux, Dimitri Peskov.
Alors l'Union européenne a dénoncé à propos des élections qui se sont déroulées récemment en Russie, a dénoncé un climat d'intimidation. Les citoyens européens ont vu passer des vidéos de bourrage d'urnes dans ces conditions-là. Est-ce que la Russie est encore une démocratie ?
Non, bien sûr, la démocratie n'existe pas en Russie dans la même forme qu'elle existe en France ou aux Pays-Bas. Est-ce que nous considérons comme la démocratie ? Oui. Est-ce que nous partageons avec la France les mêmes objectifs ? Oui, sans aucun doute. Mais nous habitons de manière dont nous voulons et pas comme les Français. Bien sûr, nous avons beaucoup de respect pour les Français, mais nous sommes russes.
Incroyable. Il dit non, c'est pas une démocratie.
Il dit notre modèle est le bon. Notre modèle, c'est celui de la stabilité, c'est celui de l'ordre, c'est celui du respect. Le vôtre, je le cite, hein, c'est les gilets jaunes.
Ouais.
Vous, ça ne vous dérange pas qu'on mette en cause la légitimité du pouvoir? Nous, ça nous pose un problème. Vous avez votre modèle démocratique, on en a un autre.
Et vous dites que cette interview, il s'est passé des choses dans l'interview.
Cette interview, c'est sincèrement une des interviews qui m'a le plus marquée dans ma longue carrière politique, parce que c'est deux modèles qui se rencontrent. C'est deux manières de concevoir même la liberté de la presse. Il a accepté les règles du jeu. J'y suis allée assez fort, clairement, en tout cas sur notamment sur Alexei Navalny, sur la démocratie, on l'a entendu, sur les élections, sur la façon dont la Russie déstabilise l'Europe. Et à un moment donné, la traductrice du Kremlin a arrêté de traduire. Parce que ce n'était pas possible pour elle de traduire mes questions, de dire au porte-parole du Kremlin, Monsieur Peskov, pourquoi vous ne prenez pas le nom d'Alexei Navalny? Monsieur Peskov, est-ce qu'Alexei Navalny va mourir en prison? Monsieur Peskov, pourquoi vous avez bourré les urnes aux dernières élections? Et en fait, on voit bien à un moment donné que ce n'est pas un exercice habituel pour elle. Et dans la traduction, il y a eu un blanc. Je me suis retournée à un moment donné vers la petite cabine où elle faisait la traduction. Et je pense que pour elle, c'était un exercice assez inhabituel. Et face à lui, il y avait quelque chose de froid, de dur. Mais en même temps, il recevait une journaliste occidentale. Il savait à quoi s'attendre.
J'ai vu l'émission hier, c'était une copie de travail. À un moment donné, je vais expliquer aux gens comment ça se passe. Il y a écrit « Entretien François Hollande ». Parce qu'évidemment, l'entretien n'a pas encore été monté, il est rajouté ensuite. Vous l'avez réalisé, que vous dit François Hollande?
François Hollande, il parle d'une nuit de négociation. Je laisserai ensuite la parole à Marie, mais il parle d'une nuit de négociation qui l'a beaucoup marqué. Et il me l'avait raconté à l'époque quand il était président. C'est pour ça que je savais qu'il avait des choses à dire. C'est une nuit qui se passe au Palais de l'Indépendance, à Minsk, on est en 2015. Et il est avec Angela Merkel et il est avec Vladimir Poutine. Et il faut trouver une entente pour faire baisser la tension.
C'est
à
le conflit
frontière
du Donbass avec la Russie qui avait envoyé des troupes officiellement ou non officiellement.
Ça dure une nuit. Poutine joue ce qu'il fait habituellement, le rapport de force, essaie de défendre ses positions jusqu'au bout, et François Hollande nous raconte comment on négocie avec Vladimir Poutine.
Alors comment on négocie ?
Oui, il nous présente Vladimir Poutine un peu comme un bulldozer finalement. Il dit c'est quelqu'un qui avancera toujours si pour peu qu'on laisse une faille ouverte devant lui. Et ça, là-dessus, il est extrêmement clair. Il l'a vu à l'œuvre. Et c'est ce qui définit Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'on a choisi le maître du jeu. C'est-à-dire que, voilà, il dit vraiment, pour lui, c'est même pas le coup d'après, c'est le coup de maintenant. Il essaiera à tout prix d'avancer le plus loin possible.
Je peux ajouter quelque
modèle.
Chose, ce qui est très important dans ce film qui a été fait par Marie-Laurent et Barbara Steck. Et ce qui définit même ce qu'on fait dans C'est dans l'air, c'est qu'on décrit pas juste le méchant Poutine. Parce que ça, personne n'a besoin de C'est dans l'air pour le faire. En revanche, qu'on décrit, et c'est très intéressant, et on le fait, je pense, avec une vraie curiosité de ce qu'ils sont, les Russes, de leur histoire, de la façon qu'ils ont de se sentir agressés par l'OTAN, par certaines déclarations des Occidentaux. Ils défendent leur modèle. Et ça, pardonnez-moi, juste, c'est aussi ce qu'on avait fait quand on avait fait le documentaire sur Erdogan. C'est à un moment donné, il faut avoir la générosité, la curiosité pour aller essayer de savoir ce qu'ils pensent aussi, eux.
Et vous parliez de la peur de l'encerclement, qui est une peur soviétique et russe que j'ai découverte. Caroline Roux, 30 secondes, une actualité qui a été annoncée par le producteur Pierre-Antoine Capton dans le JDD à l'occasion de la présidentielle. Vous allez accueillir dans C'est dans l'air l'ensemble des candidats à l'Élysée. Quel sera le cadre? Quel horaire? L'horaire habituel ou des émissions spéciales?
Non, ce sont des émissions spéciales qui seront programmées le dimanche soir. Je ne peux pas vous en dire trop parce que c'est work in progress. Comme on dit, on est en chantier. Mais on va utiliser tous les codes de C'est dans l'air, c'est-à-dire le temps, le travail sur le fond, le travail sur le contenu, pour être partie prenante de cette bataille présidentielle avec ce qu'est C'est dans l'air.
Et j'imagine que vous avez déjà pris contact avec des candidats. Est-ce que tous les candidats sont d'accord ou est-ce que ceux qui sont d'accord vont servir de produit d'appel à ceux qui... Ils vont se dire, tiens, je suis en train de rater quelque chose dans l'émission.
J'ai effectivement présenté le concept de l'émission à certains candidats. Il y a une formule qu'on utilise souvent en télé, ils sont au maquillage. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de participer à un projet qui soit vraiment autour de la matrice de leur campagne et de leur programme.
Tous les candidats sans exclusive?
Pour l'instant, je ne les ai pas tous approchés, mais ceux à qui j'ai pu en parler sont plutôt partants.
Donc non, mais vous-même, vous voulez tous les inviter?
Ah bah oui, enfin tous, on va voir, parce qu'on n'a pas non plus... on va voir combien seront s'ils sont 14, ça va être compliqué, voilà.
Caroline Roux, Marie-Laurent, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle ce documentaire Poutine, le maître du jeu, une soirée spéciale, C'est dans l'air, ce sera dimanche.
Suivi d'un débat en direct.
L'enjeu du débat.
L'enjeu du débat, c'est le gaz. L'enjeu du débat, c'est l'énergie, évidemment, puisque Poutine est encore le maître du jeu quand on parle d'énergie. En ce moment, les Français constatent qu'il y a un vrai sujet sur le prix de l'énergie. Et donc, on fera un débat autour de ça et autour du gazoduc Nord Stream.
Et regardez le doc, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'ai découvert le cuisinier de Poutine, qui il est, le type qui est à la fois son cuisinier et qui a inventé les fermatrolles, plus sa milice secrète. C'est hallucinant, ce documentaire. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Les télescopages de Bruno Donnet ce matin. Il a regardé Squid Game, ou plutôt il l'a regardé hier, il en parle ce matin. La série phénomène de Netflix qui est en train de battre tous les records. 111 millions de vues en seulement 17 jours. Vous l'avez vu aussi, Caroline?
J'ai vu.
Notre invité, c'est le comédien et écrivain Bruno Solo pour son nouveau livre Les Visiteurs d'Histoire. Et puis dans Les Indispensables, un livre au titre évocateur Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et puis Laurent Mariotte qui va nous emmener, faut pas rire, qui va nous emmener faire le tour du miel. Vous aimez le miel, Marie-Laurent?
J'adore le miel.
Voilà, j'ai fait participer tout le monde. L'imitateur humoriste Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.